Bonjour à tout le monde
et à chacun.
Alors aujourd'hui encore, nous poursuivons notre parcours dans les psaumes, comme ça fait maintenant presque un an. Et pour ma part, c'est a priori le dernier psaume sur lequel je vais intervenir. Et le calendrier de la Fédération protestante nous propose pour aujourd'hui donc le psaume 145. Ce qui tombe plutôt bien pour une dernière, parce que ce psaume est en quelque sorte le prélude à la conclusion de ce livre. Alors je vous propose, si José veut bien afficher le psaume, de le lire ensemble. Psaume 145. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles, qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Alors, avant de rentrer plus en détail dans ce psaume, je voulais juste commencer déjà par vous donner quelques éléments importants à considérer quand on lit ce psaume. Alors, le premier point surprenant, c'est que c'est le seul psaume qui porte en préambule chant de louange. Les autres, on a juste de David ou des choses comme ça, mais là, c'est chant de louange de David. Le deuxième point que l'on peut noter, c'est qu'en hébreu, il s'agit d'un psaume alphabétique. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est un psaume dont les versets commencent chacun à tour de rôle par les lettres de l'ordre, en suivant l'ordre alphabétique. Et donc, c'est un psaume qui est plus facile à mémoriser de ce fait. Et il était donc à l'époque certainement connu de tous. C'est à la fois un psaume de louange, mais donc aussi une exhortation. C'est un enseignement qui se transmet dans le peuple d'Israël. Et puis, le troisième point, c'est qu'on touche, comme je l'ai dit, à la fin du livre. Ce psaume, en quelque sorte, introduit les cinq derniers psaumes, qui tous commencent et terminent par « louer l'Éternel ». Il résonne, ces psaumes, en quelque sorte, comme la conclusion de ce livre. Et le psaume d'aujourd'hui en est l'avant-propos. C'est donc un magnifique chant de louange que nous avons là, un psaume qui nous parle de notre Dieu, de ses attributs exceptionnels, sa bonté, sa justice, sa grandeur, son amour, son soutien. Le psalmiste nous partage ce caractère extraordinaire de Dieu et proclame sa louange. Alors ce matin, on va rentrer un peu plus dans les détails de ces attributs de notre Dieu pour essayer de bien les saisir, de s'en rappeler. Et puis, ça nous permettra aussi, j'espère, de garder une image juste de qui est notre Dieu. Et puis, par conséquent, de qui nous sommes. Ça nous permettra également de redécouvrir peut-être certains aspects de son caractère que nous avons parfois tendance à oublier ou à occulter. Puis je dois vous avouer aussi que à la première lecture de ce psaume, moi, il ne m'a pas parlé plus que ça. Ça m'a paru assez lointain. Je me disais, grand bien lui fasse à David de s'extasier comme cela. Mais moi, personnellement, est-ce que je peux sincèrement dire la même chose que lui? Est-ce que c'est juste un texte au milieu de la Bible que je peux lire, même être plutôt d'accord avec ce qui est écrit dedans? Ou est-ce qu'il y a en moi des raisons personnelles de louer Dieu de la sorte? Où est-ce que je rejoins le psalmiste dans cette louange? Alors j'espère que d'ici quelques minutes, ce psaume vous paraîtra moins lointain et plus personnel, comme il l'est pour moi désormais. Alors si on relit les premiers versets, on voit que la louange est au cœur véritablement de ce psaume. Louer, c'est manifester son admiration. Et on voit que là, ça vient droit du cœur de David. Au verset 1, chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Dieu est très digne de louange. Le psalmiste va dans les versets qui suivent nous donner les raisons qui le poussent à louer Dieu. Il va le louer pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et vous l'avez sûrement retenu depuis qu'on en parle, la poésie hébraïque est faite de nombreuses répétitions. Alors je vous propose plutôt de faire un survol thématique de ce psaume plutôt que verset par verset. Alors pour commencer un petit peu les raisons de louer Dieu pour qui il est. Ce psaume nous parle à plusieurs reprises de la grandeur de Dieu, de sa majesté, de sa royauté, de sa force. Le psalmiste, dès le début, appelle Dieu « mon roi ». Et en termes de roi, David sait de quoi il parle. Parler de majesté, c'est reconnaître la grandeur à quelqu'un. C'est exprimer en même temps du respect. Dieu est en position d'autorité par rapport à nous. Et ce psaume nous parle également du règne éternel de Dieu. Oui, Dieu règne. Il est maître de toutes choses, au-dessus de nous et pour toujours. Ce psaume nous invite à louer Dieu jusque dans l'éternité, car son règne est éternel. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge, nous dit le verset 13. On parle souvent d'un Dieu personnel, proche, et on y reviendra tout à l'heure. Mais il est important de ne pas oublier que notre Dieu est un grand roi qui ne connaît aucune limite, que ce soit en termes de temps, d'espace, de connaissance, de puissance. Dieu ne connaît aucune limite. On l'avait vu un peu plus en détail dans le psaume 139. Dieu sait tout. Dieu voit tout de notre passé, notre présent. Il connaît notre avenir. C'est une raison pour louer Dieu. Il est au-dessus de nous et nous ne pouvons que reconnaître sa majesté et sa puissance. Toute la Bible nous en parle, de la Genèse où il crée toutes choses, à l'Apocalypse où revient plusieurs fois ce texte. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Pourquoi louer Dieu? Simplement parce qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Il est Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Le texte que l'on a lu nous dit que sa force est redoutable, au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. Dieu est au-delà de nous, au-delà même de notre imagination. C'est une raison suffisante pour proclamer des louanges. Alors juste une courte parenthèse au sujet de la grandeur de Dieu. Personnellement, elle me rappelle aussi que si Dieu est tout-puissant, aucun de nous ne l'est. Reconnaître la grandeur de Dieu, c'est aussi reconnaître ma propre petitesse, mon impuissance, la nôtre à chacun de nous. C'est donc aussi accepter que mon propre cheminement et celui de ceux qui m'entourent n'est pas aussi propre, aussi parfait que ce que l'on pourrait s'imaginer. Apprenons à nous aimer, à nous encourager chacun, à nous pardonner. Si nous laissons de l'espace à l'autre, que ce ne soit pas par indifférence, mais par amour, afin de laisser chacun apprendre et progresser à son rythme avec l'aide de Dieu. Nous allons le voir, Dieu étant le seul qui sait tout et qui peut tout, il est aussi le seul juge, pas nous. En effet, la justice de Dieu est un autre point qui revient dans ce psaume. David nous dit « L'Éternel est juste dans tout ce qu'il fait ». Il nous invite à chanter la justice de Dieu. Le texte nous dit que Dieu est lent à la colère, qu'il ne change pas, qu'il garde ceux qu'il aime, mais détruira les méchants. Sa sainteté et sa justice sont loués. Dieu est présenté à de nombreuses reprises dans la Bible comme le juge. Dès le livre de la Genèse, on peut voir Dieu ordonner un jugement et l'exécuter. Ainsi, par exemple, les villes de Sodome et Gomorre sont détruites. Plus tard, les royaumes d'Israël et de Juda sont livrés à la déportation. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, Ananias et Saphira sont condamnés. Et puis Paul le rappelle aussi dans ses lettres. En Romains 2, on peut lire « Tout cela apparaîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. » Mais il est bien noté que ce juge est un juge juste. David nous le rappelle, l'Éternel est juste dans tout ce qu'il fait. Il est patient également. Au verset 9, il est dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en amour. Notre juge est le plus parfait juge possible. Il a comme principe fondamental la rétribution. Au verset 20, il est dit « L'Éternel garde ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. » Une chose est certaine, avec notre Dieu comme juge, la justice sera faite. Le méchant sera puni. Mais comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, gardons-nous de devenir juges de nos prochains. Seule la connaissance parfaite de Dieu, la perfection de sa justice, lui permettre d'être le seul juge juste. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et nous pouvons placer notre confiance en lui quant à l'avenir de ceux qui font du mal. Rendons gloire et louons Dieu, le seul juste juge. Mais pour l'application de sa justice, Dieu fait preuve de patience. La patience est un des moyens de Dieu de concilier sa justice et son amour. En effet, Dieu est plein de bonté et d'amour. Et Dieu n'est pas un Dieu lointain, il agit. Son amour passe à l'action. Le verset 9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous les hommes. Dieu est riche en amour, plein de grâce et de compassion envers tous les hommes. C'est de sa libre initiative qu'il choisit d'user de bienveillance envers nous. » Dans le livre de Jonas, le prophète est chargé d'aller à Ninive avertir la ville de la sanction divine qui va leur arriver du fait de leur méchanceté. Et à l'écoute du prophète, les habitants changent de comportement. Et Jonas se met en colère contre Dieu. Il se plaint en ces termes. Il dit, « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Oui, c'est cela le caractère de notre Dieu, juste, mais plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Dieu est à l'initiative de l'amour. Paul nous dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jean, dans une de ses lettres, affirme « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » La grâce de Dieu va plus loin que sa patience. Il nous offre le moyen d'être pardonnés de nos péchés. La justice de Dieu est préservée, la vie nous est accessible. Alors oui, la bonté et la grâce de Dieu sont de belles raisons de le louer. Essayons aussi de nous souvenir comment cela a pu se manifester dans chacune de nos vies. Nous étions chacun destinés à mourir, comme cette ville de Ninive. Nous sommes passés de la mort à la vie. Je connais pas vos vies, votre passé, je connais la mienne. Et sans la patience et la grâce de Dieu, il est certain que je ne serai pas avec vous ce matin. Alors dans nos louanges, lorsque l'on évoque la grâce de Dieu, gardons présent à l'esprit aussi d'où Dieu nous a sauvés. Un autre aspect de ce que Dieu fait et dont nous parle ce psaume, ce sont les œuvres de Dieu. Ses œuvres, ses exploits et ses prodiges. Le texte au verset 4 nous dit que les œuvres de Dieu sont belles. Et je pense que là, il n'est pas question uniquement du surnaturel ou du miraculeux. Dieu est le créateur de toutes choses. Je pense que certains d'entre vous ont regardé le Tour de France ces dernières après-midi à la télévision. Et vous avez sûrement apprécié autant que moi ces magnifiques vues d'hélicoptère, des paysages de nos régions. Ici, un littoral escarpé, là-bas, une montagne enneigée. La nature qui nous entoure est splendide. Elle est l'œuvre de notre Dieu. Louons Dieu pour la beauté et la perfection de ce qu'il a créé. Et puis, au-delà de ses œuvres, il y a ce qui dépasse le raisonnable. Et je crois que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Parfois, cela va être visible comme une guérison, mais je suis sûr que vous avez déjà vécu ce qu'une de mes sœurs appelle des clins d'œil, la contraction de clin d'œil de Dieu. Vous savez, ces moments où, inexplicablement, un moment où vous avez le plus besoin, une parole, un verset, un geste vient vous faire du bien, vous réconforter, vous remotiver, vous ramener sur le chemin de vie. Je suis persuadé que c'est Dieu qui intervient dans ces moments-là. Alors, quels exploits, quels prodiges, quelles œuvres de Dieu avons-nous en mémoire? Est-ce seulement ceux du peuple d'Israël, il y a quelques milliers d'années? Dans notre vie, dans celle de nos proches, de quelles œuvres de Dieu parlons-nous lorsque nous disons « Tes œuvres sont belles » ou « Je proclamerai tes hauts faits » Et enfin, un des derniers aspects qui revient dans ce psaume, c'est le soutien que Dieu apporte. Au verset 14, il est écrit « L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. » Quand je lis ce verset, l'image me vient du marathon que j'ai couru il y a quelques années. Après 30 km et un peu plus de 3 heures de course, malgré l'entraînement, les jambes deviennent lourdes et ne suivent pas comme on voudrait. Mais au milieu de la course, il y a des bénévoles qui courent avec nous, qui courent bien moins vite que ce qu'ils auraient pu faire. Ils ne recherchent pas la performance, ils sont là pour nous encourager, pour relever ceux qui fléchissent. Parfois, juste un mot d'encouragement, parfois quelques mètres courus à nos côtés, parfois un mot pour rectifier notre technique de course. Ils soutenaient ceux qui allaient tomber, ils relevaient ceux qui fléchissaient. Et dans nos vies, on a parfois l'impression de vivre pire qu'un marathon. Et je vous confirme qu'un marathon peut être une vraie partie de plaisir comparé à la vie. Mais Dieu est là pour soutenir, pour nous encourager, pour nous relever. Et ce psaume nous rappelle que Dieu entend ce qu'il invoque. Il entend nos cris. Et non seulement il entend, mais il agit en réponse. Il délivre. Il n'est pas insensible à ce qu'on lui exprime. Les exemples sont nombreux dans la Bible où Dieu change d'avis, comme on l'a vu pour Ninive. Dieu entre en relation. Il tient compte de ce que nous faisons ou disons. Ce psaume nous rappelle également que Dieu donne à chacun sa nourriture le moment venu. C'est frustrant parfois, car on voudrait telle ou telle chose immédiatement. Mais ce n'est pas forcément le temps de Dieu. Lorsque Jésus était avec la foule sur les bords du lac de Galilée, il y avait des temps pour enseigner et d'autres pour nourrir. Dieu sait ce dont on a besoin. Comme le dit le verset 16, il ouvre la main et il comble les désirs de tout ce qui vit. Nous pouvons louer Dieu pour son soutien, pour tout ce qu'il nous donne, pour sa sagesse dans ce qu'il nous accorde. Et nous pouvons aussi repenser au moment de notre vie où son soutien a été primordial. Nous sommes parfois déçus par notre entourage, nos parents, nos amis, frères et sœurs de l'Église, mais rappelons-nous que eux ne sont pas tout-puissants. Le soutien de Dieu, lui, est sûr. Le psaume nous dit, il entend nos cris et il nous délivre. Alors, que faire avec toutes ces raisons théologiques et personnelles de louer Dieu ? Ce texte nous invite à deux choses principalement. Le louer maintenant et jusque dans l'éternité, et également transmettre ces raisons de génération en génération. L'invitation à la louange encadre ce texte. Nous sommes invités à bénir Dieu, à chanter, tous les jours. Et là, je m'adresse à un petit rappel personnel. Tous les jours, ça inclut le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, les jours de travail, les jours de repos, les jours tristes, les jours heureux. Tous les jours de notre vie. Nous sommes appelés à cette louange individuellement, mais aussi collectivement. Le psalmiste affirme que lui, il louera Dieu. Et puis il affirme que toute créature le fera. Ce psaume n'est pas sans rappeler certains passages de l'Apocalypse. La louange à Dieu résonnera jusque dans l'éternité. Et elle a déjà commencé. Le second aspect que nous sommes invités, c'est que nous sommes non seulement invités à louer, mais également à proclamer, à partager toutes ces raisons de louer Dieu autour de nous. Au verset 4, il nous est dit que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, que chaque génération publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges, que chaque génération parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Que chaque génération évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. Nous avons la joie et la chance d'avoir parmi nous des personnes qui côtoient le Seigneur depuis des dizaines d'années. N'hésitez pas à nous encourager, nous, les générations suivantes. L'action de Dieu dans vos vies est un sujet de louange et un précieux enseignement pour nous tous aujourd'hui encore. Moïse, plus tard Josué par exemple, dans les dernières années de leur vie, ont enseigné aux jeunes générations leurs succès, leurs échecs, mais surtout comment Dieu les a soutenus, comment Dieu est resté fidèle, comment Dieu a utilisé sa puissance dans leur vie. Je sais qu'aucune d'entre vous n'a traversé la mer Rouge à sec, mais on l'a vu tout à l'heure, Dieu agit dans nos vies. Et je pense que c'est une vraie bénédiction de pouvoir le partager entre frères et sœurs. Alors, pour conclure, je pense qu'il est utile de se rappeler régulièrement ces vérités sur le caractère de Dieu. Il est bon de se souvenir de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté. Il est bon de se souvenir qu'il est le seul juste juge. Il est bon de se souvenir de sa bonté, de son amour. Il est bon de se souvenir de ses œuvres, de son soutien. Ces vérités et leurs échos dans notre vie peuvent nous aider à mieux marcher sur le chemin de la vie, seul et en Église. Elles nous ramènent également à notre juste place par rapport à lui. Progressons dans nos louanges, notre connaissance de Dieu en est la source. L'action de Dieu dans notre vécu personnel peut aussi la nourrir. Et partageons cette richesse. Encourageons-nous dans cette louange de Dieu. Amen.